Bonjour à tous, il est 6h à Bangui, la première édition de ce lundi matin et la première de la nouvelle grille de Radio Ndekeluka, une présentation de Alexia Félix Yangwandi. Alexia, bonjour.
Bonjour Ursula Merveille Mevala, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition Les Titres. Un an après le naufrage qui avait coûté la vie à une centaine de personnes sur la rivière Poco, les mesures prises pour garantir la sécurité des passagers sont-elles appliquées et suivies ? Reportage au début de ce journal. Malgré de multiples sensibilisations pour garantir la transhumance apaisée en République centrafricaine, les habitants de Sanjima 2, dans le 9e arrondissement de Bangui, déplorent la destruction de leurs champs. Et puis, Ombré, la flambée des prix des produits de première nécessité inquiète les habitants, pleine de quelques ans à suivre. Le championnat d'Afrique de duathlon de Bangui a pris fin hier à Bangui. Retour sur cette clôture dans la page sport.
La une de ce journal, un an après le naufrage de la baleinière à Poco sur la rivière Ubangui, la question de la sécurité des passagers reste au cœur des préoccupations.
L'accident qui avait coûté la vie à une centaine de personnes le 19 avril 2024 a mis en lumière des failles dans la réglementation du transport fluvial. Des mesures qui sont prises pour assurer la protection des passagers lors de la navigation sont-elles suivies ? Reportage d'Emmanuel Samboulifis.
Il est 12h et nous sommes au port de Villa Colongo dans le 6e arrondissement de Bangui. Ici, près de 10 baleinières sont stationnées sans passagers ni bagages. Même si visiblement on ne voit pas le service de contrôle du ministère de Transport, certains propriétaires de baleinières témoignent que les mesures sont observées. Isaac Isitor Kobanga, propriétaire de baleinière Dieu de Miracle.
Notre sécurité est bien assurée. Présentement, chaque 6 mois, les agents du ministère de Transport descendent sur le terrain pour vérifier l'état des baleinières, les baleines qui sont en bon état. Ils valident pour voyager. Ceux qui ne sont pas en bon état, ils arrêtent leur voyage. Ça fait qu'on ne peut pas écouter encore l'histoire du naufrage.
Le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la sécurité sur la rivière Ubangui, entre autres le contrôle strict sur l'état des embarcations, le nombre de passagers autorisés et les équipements pour faciliter la navigation. Si ces mesures sont suivies, la sécurité des passagers n'est pas totalement garantie, selon Timothée Mamelewa, commandant de la baleinière Bangui Ifondo.
Effectivement, notre sécurité est assurée, ne sait pas 100%. Nous avons premièrement le sauvetage qui est les chambres à air qu'on avait pompées pour le sauvetage. Nous avons de bon sable, nous avons les secteurs pour en cas de quoi, il y a un naufrage, on pourrait secourir avec ça.
Nous quittons Villa Colongo pour le port Sao dans le 7e arrondissement de Bangui. Ici, le constat est identique à celui de Villa Colongo. Des baleinières sont garées sans passagers ni bagages. François Damandi, ingénieur de construction des baleinières et son équipe, répare une baleinière qui vient d'arriver.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'accident, même en amont, tout comme en aval. Les baleinières en réparation, vous voyez, en amont ici, il y a trop de chutes. Et à chaque fois que les baleinières voyagent, quand ils reviennent, il faudrait qu'il y ait de petites réparations. Donc, parce que ça cogne de cailloux et ainsi de suite, raison pour laquelle vous avez vu, il y a cette baleinière, on l'a tournée pour la réparer.
Selon le directeur général de transport de surface que nous avons contacté, le ministère de transport a les yeux sur tout ce qui se passe au bord de la rivière Ubangui, puisqu'il a choisi des responsables de quai pour veiller sur des mesures préventives avant l'embarquement.
Merci à vous Emmanuel Samboulifis.
Dans cette édition, des habitants du quartier Sandima 2 dans le 9e arrondissement de Bangui se plaignent de la destruction de leurs champs par des bêtes transhumantes.
Ce quartier situé à 35 km de la ville de Bangui compte plus de 800 habitants qui vivent des produits champêtres. On dit à Villa Bissayo.
Selon Pierre Batti, chef de Sandima 2, des bêtes qui transhument ou qui se déplacent à la recherche de pâturage détruisent des champs de ses concitoyens.
Nous vivons grâce aux produits de nos plantations, mais c'est depuis l'année dernière que les éleveurs transhumants avec leur bétail avaient détruit tous nos champs, même cette année. Quand tu leur fais des reproches, ils te menacent. L'un d'eux qui amenait son troupeau au pâturage a même menacé Modeke Dieudonné dans son champ, lui demandant de faire ce qu'il veut. Nous venons à Radio Ndekeluka pour informer les autorités afin qu'elles puissent aller constater ce que les éleveurs font de nos champs, que l'on nous trouve une solution. C'est grâce à nos champs que nous assurons la scolarité de nos enfants et payons nos soins. À commencer par Sandimba 1, Wata, Bougoudere, Likanda, Bougbaya, Kembe, jusqu'aux localités proches de Zawa, c'est malheureux avec la question de transhumance.
Certains habitants de Sandimba 1 et 2 ont perdu leur maison à cause de cette transhumance, ajoute Pierre Batti.
Six maisons avaient été incendiées à Sandimba 1, trois maisons à Sandimba 2. Des gens ont perdu leurs biens alors qu'ils ont des difficultés. Ces incendies font suite au fait que ces éleveurs brûlent nos réserves de paille séchée entassées au champ pour la construction des maisons. Pendant que tu es encore au champ, le vent entraîne le feu chez toi. Ils mettent le feu à la brousse pour avoir de nouvelles herbes pour l'alimentation de leurs bœufs.
Contacté, Patrick Ningatanjita, directeur de cabinet au ministère de l'élevage, dit être au courant de cette situation. D'après lui, une équipe de cadres de son département et de la MINUSCA ont sensibilisé jeudi 10 avril dernier la population sur la cartographie de transhumance et ses contraintes. Cet échange a eu lieu en l'absence des éleveurs. Le directeur de cabinet a indiqué par ailleurs que le ministre de l'élevage promet de visiter les lieux sans préciser une date.
Une autre plainte est celle des habitants d'Embré dans la Nana Gribizi.
Ils déplorent la montée de prix de certains produits de première nécessité durant ces derniers jours. Des précisions de notre correspondant Serge Romial d'Amélie.
Les prix des produits tels que sel, huile de palme et savon ont grimpé. À titre d'illustration, un sac de sel qui coûtait 4500 francs deux semaines en arrière se vend à 6500 francs. Cette flambée des prix impacte plus ou moins les familles qui n'ont pas assez de revenus pour s'offrir ces produits. Brunel Bozalo, veuve et mère de trois enfants, habite au quartier Mbré. Elle se plaint de cette hausse qui rend la vie insupportable à la population majoritairement démunie. Le savon coûte aujourd'hui 250 francs au lieu de 150 francs comme on l'achetait. Le sel se fait rare sur le marché. Adeline, mère de quatre enfants, dénonce ce manque. Alain Passiri, enseignant du fondamental 1, s'interroge, lui, sur le rôle du service préfectoral du ministère du Commerce dans la région. Alors que les consommateurs se plaignent de la flambée des prix des produits, Hassan Ahmad, délégué des commerçants, donne une explication à cela. Il faut signaler qu'il n'existe pas un service de commerce que dans la ville d'Embré pour contrôler les prix des produits des premières nécessités sur le marché. Chaque commerçant fixe les prix de ses marchandises à sa convenance. Serge Rogmel, d'Amilimbré Radio, Ndekeluka.
Alexia, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, un jour férié dans plusieurs pays du monde.
Cette journée intervient au lendemain de la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ après la semaine sainte. Une semaine qui s'achève par la mort de Jésus-Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection. La Pâque symbolise la victoire de la vie sur la mort et l'entrée pour tout chrétien dans une nouvelle ère. En République centrafricaine, ce lundi est également décrété férié, chômé et non payé.
Actualité hors de nos frontières au Tchad, un accord a été conclu dans la localité de Tibesti sur l'exploitation des richesses minières.
L'accord a été signé hier entre le gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense de Miski dans le but de mettre fin à plus de 7 ans de conflit dans l'extrême nord du pays. En 2018, des tensions avaient éclaté dans la localité de Tibesti autour de l'exploitation des richesses minières.
Au Burkina Faso, plusieurs officiers de l'armée sont arrêtés sur fond de rumeurs de coup d'État.
La semaine dernière a été marquée par l'arrestation des deux d'entre eux ayant été relevés de leur fonction de chef de corps. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas tardé à les remplacer. Si aucune communication n'a pour l'heure été faite à ce sujet, plusieurs soutiens de la junte évoquent une tentative de coup d'État, pointant du doigt des militaires en exil.
Et puis on se multiplie depuis plusieurs semaines dans tous les pays. En sport, la clôture du championnat d'Afrique de duathlon de Bangui s'est déroulée hier à Bangui.
Plusieurs athlètes originaires de 8 pays africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire et le Niger, ont pris part à cette compétition continentale. Cet événement sportif, qui s'est déroulé durant 2 jours, a donné la possibilité aux participants de renforcer leur positionnement pour les Jeux Olympiques de 2028 au Texas, aux États-Unis. On en parle avec vous, Théoneste Punika.
Après avoir été vice-champion d'Afrique en 2023 au Niger, le champion centrafricain s'est distingué en remportant cette fois-ci lors de la catégorie senior masculine en obtenant le titre de champion d'Afrique. Gustave Dendo a déjà établi des objectifs pour les prochaines compétitions internationales.
L'autre fois à Niamey, j'étais le vice-champion d'Afrique. Aujourd'hui, je suis venu à le champion d'Afrique. Ça me fait beaucoup de fierté. Je me suis performé, ça je reconnais, mais il y a aussi des internationaux qui sont venus, qui sont aussi performants. C'est toujours dans les batailles que j'avais l'objectif et de la détermination. Quand je suis chez moi, je voulais remporter ces victoires à toute force.
Pour le président de la Fédération Fédération centrafricaine de triathlon, Brackler Sandy, le bilan de ce tournoi positif pour les athlètes centrafricains.
Bilan, c'est un bilan positif parce que Tonga a la basse performance.
C'est un bilan positif puisqu'il y a amélioration dans les performances des athlètes. Puis 2023, il y a des compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques qui sont organisées. Il y a des qualifications directes et des qualifications par classement. Donc, lorsque tu participes au championnat d'Afrique en remportant des médailles d'or, tu pourras te qualifier aux Jeux Olympiques.
Bani, moi, j'ai la chance de me qualifier directement parce qu'après, ça sera décompté. Tu tenais me qualifier directement aux Jeux Olympiques.
C'est la quatrième fois que le championnat d'Afrique de duathlon a eu lieu. Cependant, c'est une première pour la République centrafricaine d'avoir accueilli cette compétition africaine.
Merci à vous, Tennest Pounika.
Football, fin hier à Bangui, des matchs de la 16e journée de la première et deuxième division de la Ligue de Bangui.
Tout-Puissant USCA battu à Esmangré Sport 3-1 et victoire de FCSOS face à EFC 5, 1-0.
Les responsables de la Ligue de Bangui ont échangé samedi dernier avec ceux des sous-ligues de la capitale.
Il était question d'analyser les avancées après la décision de la Ligue interdisant aux joueurs de concourir dans les compétitions de sous-ligues. Les représentants des différentes sous-ligues ont apprécié cette décision de la Ligue tout en demandant aux responsables de faire un travail de contrôle sur le terrain. Le président de la Ligue de football de Bangui, Placide Mapuka, en a profité pour faire un don de ballon aux sous-ligues afin de soutenir leurs activités.